Radio Spirale. Les œuvres d'Élise Turcotte, d'Alain Farah et de David Leblanc entretiennent de près ou de loin une relation avec le cinéma. Ce rapport, tantôt conflictuel, tantôt admiratif de la littérature avec le cinéma qui se déploie chez ses auteurs, est au centre de cette table ronde qui se déroulait à la librairie Olivieri en mai 2012.
Alors, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. C'est avec plaisir que j'anime ce soir une causerie avec trois écrivains, Élise Turcotte, David Leblanc et Alain Farah, autour de la question des relations entre littérature et cinéma. J'ai intitulé ça « Image hors champ, la fabrique cinématographique de la littérature ». Alors c'est une causerie qui vient couronner en quelque sorte une journée d'études très studieuse, mais tout de même pleine d'humour, sur les relations entre littérature et cinéma. Et ce soir, j'aimerais qu'on aille vers quelque chose d'un peu plus concret et que l'on entre dans la fabrique de l'œuvre en braquant le projecteur sur ces relations que les écrivains entretiennent avec le cinéma. Nous allons commencer avec Élise Turcotte. Vous m'entendez bien ? Ça porte. Avec Élise Turcotte que je vous présente. Élise Turcotte est professeure au département de français du Cégep du Vieux-Montréal. Elle a écrit plusieurs livres de littérature jeunesse ainsi que des romans. Je voudrais nommer « Le bruit des choses vivantes » paru en 1991 et « La maison étrangère » en 2002, notamment. Ses œuvres sont couronnées de nombreuses distinctions, dont le prix du gouverneur général pour « La maison étrangère » et le grand prix du Livre de Montréal pour son roman le plus récent, « Guyana », publié chez Leméac Éditeur. Alors, Élise, je vais te demander de nous lire un ou plusieurs extraits qui, selon toi, représentent assez bien cette relation entre littérature et cinéma.
Ben, j'ai choisi... Ça va? J'ai choisi un extrait dans La maison étrangère, puis un dans Caravane, mais je vous expliquerai après pourquoi et comment... En tout cas, vous verrez. Je ne sais pas si ça explique la relation entre littérature et cinéma, mais c'est cinéma dans mon roman. Un soir, je me suis acheté une robe blanche pour célébrer le printemps et la fin de mon cours. Je pensais pouvoir faire plaisir à mon père, offrir une impression de rédemption. J'avais vu au cinéma, quelques mois auparavant, un film dans lequel la reine Élisabeth se poudrait le visage et se revêtait de blanc virginal pour ses noces avec son pays. Une scène très forte. J'en extrapolais la signification jusqu'à la notion de virginité, telle que conçue par certains philosophes médiévaux. Une virginité non charnelle, une attitude de l'âme purifiée, au contraire par le corps et déliée de tout. Un dépassement hors de soi, hors de la culpabilité et par ce fait une façon de remonter vers la source de la lumière. Le film venait de sortir en vidéocassette. Je l'ai loué et je repassais plusieurs fois la scène. Je restais fascinée par la puissance des gestes, par leur précision volontaire et par ce qui se dégageait du personnage. C'était une sorte de messe, un rituel dont le sens émanait entièrement de son corps revêtu de blanc. Une fille coupait ses cheveux, une autre lissait les plis de sa robe. À la fin, on découvrait en dehors de l'histoire, on aurait dit avant l'histoire, une présence lumineuse dans le monde. Elle était redevenue vierge. Ce n'était qu'un film, bien sûr, mais je cherchais à mon tour à recréer mes propres symboles. Je cherchais ce que j'avais à célébrer. La souffrance passe, mais la consolation reste, disait Maître Eckhart. Mais où se trouvaient mes larmes? Où se trouvait ma conscience du monde? Le blanc ne me convenait pas, pas plus que le noir. Il n'y avait pas encore assez de puissance vitale en moi. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, avec Cate Blanchett. Mais dans le fond, oui, ça parle de mon rapport au cinéma, parce que c'est mon genre de repasser des scènes ou d'être obsédé par une scène. Dans sur un autre ton, dans Caravane, la dernière nouvelle, voici. J'ai pensé que Marielle avait raison, que ce n'était pas obligatoire de sortir même s'il faisait beau. Il y avait depuis longtemps un double de moi enfermé dans une chambre de motel. Resté là, étendu sur le lit à regarder un vieux film à la télévision, c'était peut-être le meilleur moyen d'oublier que le dernier homme de qui on a cru être aimé est en train de se servir un cocktail avec sa femme, évidemment. Il n'en a jamais eu l'habitude, mais là, il lui sert cet apéro. Elle est assise sur une chaise rabougrie derrière le chalet loué. Elle lui sourit. Tous leurs amis sont là et sourient aussi parce que le bonheur est retrouvé. Au fond, il était peut-être encore en train de se noyer. « Tu es la seule à le savoir », m'avait-il dit. Quelle importance! Le bonheur était retrouvé. C'est alors que Betty Davis s'est retournée en faisant un geste brusque de la main pour amener sa robe avec elle et qu'elle a dit « Sortez la bouteille de vieux Porto ». Je me suis levée, debout sur le lit, et j'ai répété cette phrase en me regardant dans le miroir « Sortez la bouteille de Porto ». Cette fois, c'était un pur ravissement.
Merci. Ça me fait drôle.
Alors, pourquoi est-ce que...
Pourquoi les extraits?
Oui, pourquoi les extraits?
Ben alors, quand tu m'as demandé de lire des extraits, je me suis dit, voyons, bon... Fait que là, j'ai été obligée de lire mes livres, là, c'est bien plate. Je regardais un peu, puis je me suis rendu compte qu'il y avait du cinéma dans tous mes livres. J'étais... Non, mais ça m'a... J'ai même noté, là, dans un petit carnet pour ne pas oublier, parce que je suis assez fatiguée aujourd'hui, là, avec les histoires qui se passent à Montréal. Je ne sais pas si... Je fais de l'insomnie. Bon, alors, j'ai vu que dans tous mes livres, il y avait des références constantes au cinéma, même, puis je savais aussi que même c'était plus que ça. Donc, le rapport aux images, à la télévision, est super important pour moi, même au cinéma et même à la télé, comme on vient de voir dans un extrait. Donc, je me suis dit aussi que la télévision, moi, je suis une téléfreak, là, on ne pense pas ça de moi, mais c'est vrai. Donc, la télévision, ça représente comme une sorte de chaos, puis le cinéma, ce serait comme un chaos organisé, comme la littérature, pour moi. Donc, en littérature, en cinéma, en fait, on opère comme une espèce de ralentissement du regard puis de la pensée. Puis j'ai trouvé que le cinéma, pour ça, se rapprochait de la littérature. Fait qu'en me relisant, j'ai vu que dans mon livre pour adolescents, Rose, l'héroïne qui s'appelle Rose, son héroïne à elle, c'est Sofia Coppola. Son chat s'appelle Coppola. Le chat dans mon livre Guyana s'appelle Elliot, comme le petit garçon dans E.T. Non, mais j'avais jamais pensé à ça. Évidemment, dans La Maison étrangère, il y a ce film avec Cate Blanchett, cette scène-là, qui m'avait complètement fascinée puis qui entrait tellement bien dans mon roman. Dans Caravane, la scène que je vous ai lue, j'ai apporté le livre pour vous montrer la couverture. C'est un bordua. C'est un beau bordua. Oui, avec un bijou. Et je suis tellement obsédée que j'avais dit à mon directeur littéraire, il faut absolument que dans l'image, il y ait un mouvement comme ça, tu sais. Bien là, j'ai pas de robe, là, mais... tu sais, parce que moi, pour moi, tout le livre, toute la fin du livre et tout le mouvement de Caravane, c'était le geste de Betty Davis avec sa robe, sortez la bouteille de vieux Porto. Je trouvais ça parce que ça finissait... en disant ça faisait comme aussi une espèce de... un mouvement carnavalesque. Je trouvais ça beau. Donc, on a cherché avec le directeur littéraire des mois, rien faisait mon affaire, jusqu'à temps que je trouve ce bordua où il y avait quand même un peu ce mouvement-là. Et puis, après ça, je peux dire aussi que j'ai un recueil de poèmes, entre autres, là, mais qui s'appelle « Sombre ménagerie ». Tout le recueil vient d'un film que j'avais vu à l'époque où avant d'écrire ce livre-là, à l'époque où j'écrivais La Maison étrangère, ce film qui s'appelle In Dream. C'est pas un grand film, là, je suis pas en train de parler de ça, là, mais In Dream de Neil Jordan avec Annette Bening. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais la première scène du film, on voit Robert Downey Jr. qui est pas mal beau. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On le voit, on ne sait pas trop que c'est lui, mais ça commence une scène sous l'eau. Il est attaché, c'est un enfant qui est... C'est pas lui, en fait. C'est un enfant qui est attaché à son lit. Puis ça... Et dans le film, ça se passe beaucoup en dessous de l'eau. Puis évidemment, moi, je suis obsédée par Ophélie. Et il y a beaucoup de scènes sous l'eau dans mes livres. Et puis ça se passe en Nouvelle-Angleterre, un endroit que j'aime beaucoup. Donc, je peux vraiment l'affirmer que tout ce recueil-là vient de la vision de cette scène-là, parce que dans Sombre Ménagerie, toute la moitié du livre, ça se passe en dessous de l'eau. Donc, moi, je décris la mort comme étant une espèce de caméra. C'est comme si j'avais braqué ma caméra sous l'eau, que j'avais décrit c'est quoi la mort, et ça se passe comme une ville en... sous l'eau. Et puis, évidemment, il y a comme toutes sortes de liens dans le film. C'est un serial killer, mais le personnage principal incarné par Annette Bening, elle est illustratrice, elle travaille sur un conte de Grimm. En tout cas, il y a tout un espèce de mix de références assez intéressantes pour moi. Puis Annette Bening, c'est de l'anecdote, mais c'est important à dire que mes premiers livres pour enfants que j'ai fait, premier roman, c'est des Annettes. Puis c'est à cause d'elle, parce que quand j'étais plus jeune, tout le monde me disait que je ressemblais. Fait que c'était c'est comme mon sosie cinématographique. Il y a pire. Et puis elle est parfaite, en tout cas. Et puis Guyana, pour finir, Guyana, mon dernier roman, la fin du livre, regardez. La fin du livre m'a été un peu... Enfin, j'ai compris à un moment donné, parce que tout le roman se passe en 1992, alors j'ai réécouté beaucoup de films qui se passent dans ces époques-là, même si ça n'avait pas nécessairement de rapport. Mais en réécoutant Thelma et Louise, film que j'avais beaucoup aimé, ça m'a un peu amenée à écrire ma fin. En tout cas, je ne veux pas la dire non plus, mais donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai choisi ces deux extraits-là.
Oui, merci, c'est bien, parce qu'on a l'impression que... Enfin, je veux dire, moi, ce qui me frappe, c'est que tu en reparcourant tes livres, tu réalises finalement que le cinéma occupe... Enfin, le cinéma, et puis peut-être pas juste le cinéma, télévision, l'image, occupe une place très importante. Mais tu n'as pas parlé du bruit des choses vivantes, où c'est aussi très, très... Oui, très présent.
L'image, oui, c'est un livre sur l'image. Et bien sûr, dans Le bruit des choses vivantes, ça c'est beaucoup il y en a beaucoup comme ça dans mes livres. Une mère avec sa fille dans un salon et les images de la télé. Donc, c'est toujours le lien entre les images et comment on vit. Et c'est sûr que la question aussi, c'est le cinéma, pour moi, c'est très, 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 très important. C'est vraiment quelque chose qui me... à tous les niveaux dans ma vie, au niveau de ma création, mais dans ma vie personnelle, c'est quelque chose de très important. Aller au cinéma, regarder des films, être interrogée par ça. Puis je me suis rendu compte que j'ai lu un article de mon ami André Roy, le poète André Roy, qui avait écrit sur Clint Eastwood, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Lui, il dit, son article était super beau, c'est dans la revue 24 images, il dit que le cinéma... ça a rapport avec les fantômes. Le cinéma, c'est quelque chose qui a rapport avec les revenants et les fantômes. Parce que chaque fois qu'on regarde un film, évidemment, avec Clint Eastwood, c'est intéressant à dire, mais chaque fois qu'on voit un film, chaque fois qu'un réalisateur tourne un film, il tisse des liens avec les morts, les personnages qui étaient là, qui ne sont pas tout à fait là. Et pour nous, spectateurs, quand on va y aller, on va partir avec des personnages qui restent dans l'écran, mais qui continuent à nous habiter. Puis je crois que la littérature, c'est un peu ça. Ça a rapport aussi avec la mort, puis avec la disparition. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
Oui.
Je me suis préparée. Hein?
juste simplement pour revenir sur cette image dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai aussi que parfois, quand on va partir du cinéma, on va isoler une image qui nous frappe particulièrement. Puis là, on va la retravailler en écrivant, on va la réinvestir fantasmatiquement, etc.
Mais c'est que ça, chaque écrivain a sa nourriture, je ne sais pas comment dire ça. Moi, le cinéma en fait partie de mon atelier imaginaire, je dirais, puis de nourriture importante. Tu sais, je parlais de la scène du film In Dream, mais j'aurais pu parler aussi de la scène du piano.
Oui, je pensais à ça.
Parce que quand le piano coule, puis qu'elle est attachée à son piano, puis qu'après ça, elle se délivre et elle revient.
Quelle image!
Puis c'est sa voix aussi, c'est l'image, mais sa voix disant, je me souviens pas des mots, mais ah, quelle surprise, je suis vivante, je vis. C'est la surprise de cette... Ouais. Ben, encore, il y a un rapport avec la mort.
Et l'eau.
Oui, et l'eau. C'est intéressant. Puis comme, je ne sais pas pour mes deux amis ici, mais moi, j'aimerais beaucoup écrire pour le cinéma. Ça ne m'est jamais été présenté, puis ça n'arrive pas, là, mais... Parce que quand j'écris un roman, ça se déroule en images aussi.
Oui. Mais alors ça, justement, je voulais aborder cette dimension-là, c'est qu'il y a... Il y a des références au cinéma, à la télévision, etc. Mais il y a aussi beaucoup de scènes dans lesquelles la narratrice vit quelque chose, bon, parce que le cinéma et la vie sont très étroitement liés, et tout à coup, il y a comme un détachement, et elle voit quelque chose, vraiment comme une petite séquence de cinéma. Et ça, on le voit revenir assez souvent. Donc, le cinéma est là aussi quand il n'y a pas de référence explicite.
Ben, c'est que, surtout dans Le bruit des choses vivantes, évidemment, c'est assez fragmentaire comme roman. C'est-à-dire, c'est des petits chapitres d'une page et demie. Donc, il y a ça, la scène qui est écrite. Je trouve que... Souvent, je vais apprendre à écrire mes dialogues en réécoutant plutôt des émissions de télé ou des bonnes émissions de télé, quand même, ou des bons films, parce qu'il y a des mauvais dialogues dans des mauvais films aussi, il y en a, là, c'est sûr, mais j'amène souvent mes étudiants en création à réécouter des scènes parce que c'est plus facile des fois d'être un peu détaché. Mm. Bon, ben là, c'est du cinéma. Regardez comment le dialogue est écrit. Tu sais, un dialogue, ça devrait dire quelque chose que tu ne peux pas dire autrement que par un dialogue. Il y a beaucoup de romanciers qui le font pas, là, qui font parler des personnages pour rien. Il y a beaucoup de cinéastes aussi, mais ça ne devrait pas. Quand les dialogues sont bien faits, ben ils disent quelque chose. C'est important. Donc ça, c'est... Puis aussi, c'est... Je me souviens d'avoir vu, par exemple, l'année passée, Les plages d'Agnès, le merveilleux, merveilleux film d'Agnès Varda. J'étais tellement excitée en sortant du film parce que le film est extraordinaire, c'est comme un autoportrait, c'est jeune, c'est brillant, et puis elle a 84. Puis j'ai trouvé que c'était un des films les plus jeunes que j'avais vu depuis des années. Là. D'après moi, ça aurait, tu sais, fait que ça. Puis la même chose pour Alain René, son dernier film. Les herbes folles, c'est comme ça que ça s'appelle. Ah là, j'étais bien excitée. Lui, il a 90 ans à peu près.
Non, je ne l'ai pas vu. Il y a de l'avenir, c'est bien.
Non, mais je trouve ça intéressant de voir à quel point ces réalisateurs chevronnés-là se servent de leur caméra et de leur outil. Parce que c'est vrai qu'en roman comme en cinéma, mais là, c'est un autre sujet, mais... Des fois, on dirait que les gens ne se servent pas de leur outil. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Merci Élise. Alors, il y a cette question qui reste dans l'air et que je vais bien retenir pour la poser à David Leblanc et Alain Farah. Avez-vous ce rêve d'écrire pour le cinéma? je vous présente David Leblanc, qui est professeur au département de lettres du Cégep de Lévis-Lauzon. Il joue et chante au sein de son groupe. Il a traduit quelques textes pour la revue Liberté et a publié deux recueils de récits au Cartanier, La descente du singe en 2007 et Mon nom et personne en 2010. Mon nom et personne a été finaliste au prix littéraire des collégiens. J'ajoute que David Leblanc a participé à un dossier que j'ai co-dirigé dans les cahiers littéraires Contre-jour, dossier consacré aux relations entre littérature et cinéma. Il a signé un petit texte intitulé « Nu de trois quarts d'eau sous la lune ». Alors, David, est-ce que vous pourriez nous lire un ou deux
extraits ? On peut me dire « tu ». Alors, ce ne sont pas des romans. Texte bref, vous verrez. Alors, sur un plan de Shoah. Il neige sur Auschwitz. Il neige dans les rues d'Auschwitz. Des rangées de bâtiments, de baraques, des rangées d'arbres. On dirait presque des maisons ordinaires. Des fenêtres. Population zéro. De nombreuses fenêtres percent les façades de briques rouges. Il neige. Les toits sont blancs. Population zéro. La rue est déserte. Il y a encore des feuilles dans les arbres. Il neige. Population zéro. Les cheminées de briques rouges percent la couverture de neige qui recouvre les toits. La rue est déserte. Population zéro. La neige tombe sur les pavés humides, réchauffés par le soleil et le passage de véhicules. Fantômes banalisés. Pas un chat. Il neige. Population zéro. Aucune fumée ne s'élève des cheminées. Les maisons ne sont plus habitées que par le froid, la hantise et l'incompréhension. Images qui sont pour moi les plus belles et les plus troublantes du film documentaire de Claude Lanzmann. Alors, je ne sais pas si on peut discuter tout de suite de la chose avant d'enchaîner avec un autre très différent.
En fait, j'aimerais peut-être que tu lises l'autre très différent. et puis bon, sauf si tu veux qu'on en parle tout de suite, ce qui est possible. Bon, parce que je pense que pour qu'on ait justement la diversité de ce que tu peux faire. Est-ce que ça va?
Oui, d'accord. Donc, on avait un texte sur le documentaire sur la Shoah de Claude Lanzmann. Ici, on a un texte qui porte sur les événements de Polytechnique, mais à travers le film de Denis Villeneuve, même si ce n'est pas mentionné nulle part. Donc, contrôle de l'information et tremblement du sens. Séparez-vous, les gars à droite, les filles à gauche. C'est ce que l'humain aux mains qui tremblent a dit aux humains aux mains qui tremblent, car l'humain était ce jour-là le produit d'une addition gargantuesque. Même si au départ on avait voulu nous faire voir les choses autrement, en commençant par l'humain qui se rase la barbe, puis en enchaînant avec l'humain qui se rase les jambes, nous n'avons rien vu d'autre que deux humains peu sûrs d'eux-mêmes. L'idée, c'était de ne pas faire un film sur le point de vue féminin ou masculin, mais de mettre les deux à l'écran. Là, je cite Denis Villeneuve. Nous avons pourtant suivi, presque poussé, le survivant jusqu'au suicide avant de reprendre le fil brisé de la narration depuis le regard de la survivante au point précis de leur séparation. Les gars à gauche, les filles à droite. N'est-ce pas aussi de cette manière tranchée que l'on distingue les cerveaux féminins et masculins? Le noir et blanc nous invitait pourtant à faire abstraction de toutes ces choses que la culture nous a inculquées, comme le « on ne naît pas femme, on le devient ». Que Simone de Beauvoir, existentialiste du deuxième sexe, a plaqué sur le « on ne naît pas homme, on le devient » d'Erasme, humaniste de la Renaissance, formule équivalente dont l'opposition superficielle se dissout dans l'aphorisme « l'existence précède l'essence », tiré de « l'existentialisme est un humanisme » de Jean-Paul Sartre. Il y a néanmoins des traits propres à l'homme et d'autres attributs propres à la femme. Nier cela, c'est se condamner aux rencontres qui tournent mal. Dans le film, c'est l'univers froid des ingénieurs qui est en cause. Quand on travaille en noir et blanc, tout devient géométrique, tout devient mathématique, je cite encore le réalisateur. Or, nous dit-on, un ingénieur, ça n'a pas d'enfant. Silence tendu, instant à jamais figé dans l'attente de la peur et la peur du vide, du trou de larmes pointé vers soi, de l'inévitable pression de la détente suivie de l'insupportable bruit de la détonation précédant la mort, fusil d'assaut qui fait peur aussi bien sur les plages de Normandie que sur les bancs d'école, violence parachutée dans le quotidien scolaire, technique, en rang, prêt pour l'exécution sommaire, la mort, le silence, le vide, complet, livide, amniotique, prêt à tout avaler, à tout régurgiter. Les histoires nous font croire qu'il s'est passé quelque chose, alors qu'en réalité, on n'a fait que fuir une situation pour une autre. Succession d'images, triomphe du vide béant qui avale tout, qui fait tout disparaître, violence radicale, degré zéro, déflagration. Dans la mort, nous sommes au milieu de la vie. L'horreur n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans le témoignage, impuissant, furieux, envers exact de la beauté, envers exact de la paix extérieure. Trajectoire de balles tracées, quadrillage, topologie, parcours, cheminement même pas irrémédiable, ligne de fuite, troupeau d'éléphants blancs en marche, en silence, cran d'arrêt levé, soleil interdit, déambulation morbide, sans but précis, horizon bouché, la rage au cœur, l'eau qui bout sous le couvercle en attendant que ça saute. Et que ça saute. La main qui tue emporte dans la tombe l'odieux de son angoisse raisonnée. La perte de l'homme est dans les explications.
Oui, merci David pour ces deux extraits. Je sais pas trop comment réagir aux deux en même temps. C'est très difficile. Bon, ça, on voit justement qu'il... Bon, il y a quand même, je remarque quand même, en les écoutant l'un à la suite de l'autre, une écriture qui est beaucoup une écriture de la répétition, quand même. Mmh. Et c'est particulièrement frappant avec le premier texte, qui est inspiré d'une scène de Shoah. C'est une petite scène d'ailleurs sur laquelle il existe une. Enfin, j'ai entendu une fois une conférence précisément sur cette scène-là de la neige qui tombe. Donc bon, c'est intéressant. Et alors, il y a dans l'extrait autour de Shoah une dimension, je dirais, plus descriptive. Poétique, une sorte de scansion qui se met en place, qu'on sent aussi par moments dans l'autre. Donc, c'est peut-être ça. Mais dans l'autre texte, il y a une dimension qui est présente aussi dans Mon nom et personne, qui est une sorte de décortication, bon, je ne sais pas, enfin, logique ou faussement démontage. Logique, oui, un démontage qui n'a pas vraiment. Enfin, qu'il y a dans Shoah, sauf que c'est un démontage avec beaucoup plus. C'est une sorte de. Alors bon, je ne sais pas si ce travail de répétition qui se met en marche et de démontage est ce que tu privilégies quand tu parles du cinéma ou s'il y a autre chose.
En fait, le texte sur Shoah, qui est vraiment un texte que j'ai écrit. Tout de suite après avoir vu cette scène-là, je pense que j'ai arrêté carrément le documentaire qui dure quand même, bon, 4 DVD, alors on a le temps de prendre des pauses. Et c'est une image qui m'avait vraiment, vraiment frappé, sauf que dans le film comme tel, si je ne m'abuse, parce que bon, je l'ai vu une fois, c'est pas une scène sur laquelle le réalisateur nous arrête pour réfléchir là-dessus. C'est juste une image qui est frappante puis qui parle d'elle-même. Et ça ne dure pas très longtemps. Alors, la répétition est plus là pour montrer qu'on est dans l'instant arrêté, qu'on prend le temps de réfléchir sur un point très, très... D'ailleurs, ça s'appelle « Sur un plan de Shoah », donc c'est vraiment une seule... c'est pas sur l'ensemble de l'œuvre, c'est vraiment sur cette image-là. Et finalement, j'en dis pas nécessairement plus que ce que l'image dit. C'est plus un partage de ce que j'ai vu dans cette image-là. Puis de vouloir s'arrêter là-dessus que de décortiquer comme tel, puis de se mettre à expliquer qu'est-ce que ça peut signifier. Donc c'est vraiment, c'est une émotion ressentie au visionnement de ce plan-là. Alors que dans l'autre, on est plus dans la réflexion parce que j'ai vu le film Polytechnique. Je pense que c'était la journée de la femme, journée de contre. C'était un truc, en tout cas, je trouvais ça bizarre de présenter ce film-là. Je pense que c'était contre la violence aux femmes, mais bon, bref. Puis bon, donc, j'ai vu ce film-là dans ce contexte-là, puis là, je réfléchissais, bon, le protagoniste, pour l'appeler ainsi, qui sépare... D'ailleurs, je le nomme pas. Je me fous de lui royalement, puis... Mais c'est de séparer. Le réalisateur a essayé comme de pas les séparer, mais il l'a quand même fait. Même s'il a essayé avec le noir et blanc de tout aplanir, on n'y arrive pas. Donc c'est un texte qui est encore une fois dans le senti, mais qui est aussi dans la réflexion, dans le démontage qu'on trouve dans plusieurs de mes textes qui ont toujours un penchant un peu essayistique, ce qui n'est pas nécessairement très cinématographique.
Non, non, mais de toute façon, t'es pas en train de faire un film, donc
Non, non.
je
D'ailleurs, c'est pas
dirais.
mon rêve.
Ah bon, ouais, voilà.
Si je peux anticiper
J'ai la
sur la
réponse
réponse.
à ma question. On a entendu justement aujourd'hui, on a eu toute une journée sur le cinéma et la littérature, et on parlait de cinéphilie du texte. Et je dirais que de même qu'il y a pas mal de références, les unes montrées, les autres cachées, là je fais un petit peu référence à notre ami Pérec, des références à la littérature, il y a quand même un certain nombre de références au cinéma, surtout dans la série des J'ai oublié, dans les deux séries, les trois, pardon. Les trois séries qui montrent une sorte de cinémathèque. Hein. Je me suis amusée à noter les titres des films et j'ai fait un petit peu ce qu'Élise a. Et il me semblait qu'il y avait vraiment une cinéphilie, c'est-à-dire des films extrêmement divers. Bon, il y a Shoah, il y a.
J'imagine.
Jules et Jim, Kill Bill, Pulp Fiction, des films de l'ONF. Bon, enfin, je ne vais pas tous vous les dire. Mais il y a quelque chose de cinéphilique que j'ai pu retracer de façon un peu disséminée là-dedans. Alors, j'aurais deux questions. Est-ce que tu te considères comme un cinéphile? Est-ce que pour toi, le cinéma est quelque chose d'important? Et est-ce que vraiment on pourrait dire que ça nourrit ton écriture jusqu'à quel point? Et d'autre part, est-ce qu'il y a pour toi un jeu là-dedans, c'est-à-dire un jeu avec le lecteur de placer des références qui sont pas toutes dans un seul genre, et c'est ça qui est intéressant, surtout dans un recueil comme le tien qui joue sur justement, des fictions qui vont aller faire appel à des genres différents aussi, à des formes d'écriture différentes.
Oui, ben, pour faire un lien avec le jeu et l'ensemble des références diverses, j'irais dans le sens d'Élise Turcotte, quand même.
Oui,
C'est mon rapport au carnavalesque, justement, le renversement des valeurs, puis. Certains lecteurs qui peuvent prendre peur à la vue de toutes ces références-là, parce qu'il y en a énormément, et ça va vraiment dans tous les sens. South Park, Family Guy, les films de Woody Allen, Charlie Chaplin, nommez-les, j'en oublie. Puis pour moi, c'est toute la même chose, parce que c'est la vie, on n'échappe pas. Il n'y a pas de cloison. Je parlais justement de décloisonner avec le texte sur Polytechnique, puis. Je cherche toujours à décortiquer les choses, puis à aller voir un point de vue qui n'est pas nécessairement au premier degré, nécessairement. Mais donc j'aime bien mélanger. Oui, il y a du jeu, toujours, évidemment. Puis il y a de l'inspiration. Des fois, c'est juste pour la référence, pour ce que ça évoque. D'ailleurs, je pense que la référence à Family Guy est là parce qu'il y avait déjà une référence à Seinfeld. Et donc, j'en ai enlevé une, j'en ai ajouté une autre pour ajouter à la diversité de ce qu'il y a dans le livre. On était vraiment conscients en travaillant sur le manuscrit à la fin de l'ensemble, de l'effet de l'ensemble produit par toutes ces références-là. Puis on essayait de. J'essayais de jauger un peu est-ce que bon, est-ce qu'il y en a trop, est-ce que c'est trop encyclopédique? Oui, non. Puis c'est ça, donc j'aime bien parce que je m'intéresse à toutes ces choses-là, donc
Ouais.
c'est pas juste pour étaler comme ça.
Ah non, non, mais c'est pas du tout ce que je disais
Oh, non,
d'ailleurs.
non.
Pour le jeu avec le lecteur, c'est aussi une façon justement d'évoquer quelque chose d'établir une sorte de complicité,
ben,
de tout ça.
J'ai rencontré une lectrice l'année dernière pendant le prix des collégiens qui avait vu Madame Tootli-Potli, un petit film d'animation de l'ONF, juste avant de lire le livre. Mm-hmm. Puis c'est une référence, c'est pratiquement pour dire au lecteur, ben, va voir ce film-là. Puis, mais pour elle, c'est un effet grandiose de complicité avec l'auteur parce qu'elle venait de voir ce film-là. Puis, donc, ça va dans les deux sens. Parfois, on peut aller vers ce film-là après. C'est pas nécessaire de l'avoir vu avant. Mm-hmm. Mais la référence est là, puis donc c'est disponible.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser quand même au titre de ce livre.
Ça, c'est intéressant.
Alors voilà, j'aimerais que tu nous en parles de ce titre, justement, par rapport à... peut-être pour prolonger ce que tu viens de dire.
Bon, qui a vu le film? je l'ai vu un an après la parution du livre.
Pas vrai?
Oui.
Oui. Tu n'avais jamais entendu parler de mon nom. Mon nom est personne. Il me semble qu'on dit ça souvent.
C'est une phrase de l'Odyssée d'Homère.
C'est vrai?
C'est une phrase de l'Odyssée d'Homère. Donc, ça n'a rien à voir avec le cinéma.
Les références sont pas bonnes.
Sauf que... Je savais qu'il y avait un film. Je savais quand même qu'il y avait un film, mais je ne l'avais pas vu. Il y a ça aussi, parfois, dans les références. On peut parler de... Puis parfois, dans le livre, je parle de livres que je n'ai pas lus. Mais j'en offre de très longs résumés. Ça a l'air super savant, mais c'est de la fiction peu.
Est-ce que tu as lu Pierre Bayard? Comment parler des livres qu'on n'a pas lus?
Non, je ne l'ai justement pas lu, mais on peut en parler. On peut en parler. Sauf que petit coquin que je suis... Dans la quatrième de couverture que j'ai écrite, j'étais allé tirer des citations du livre. Encore lapsus, deuxième lapsus. Alain, c'est toi le prochain. On est rendu à cinéma.
Oui.
Cinéma, livre, cinéma. Donc, il y a des citations du film dissimulées dans mon texte de quatrième de couverture qui parlent de cow-boys et d'indiens et de... Donc, c'est un leurre. C'est pour ça que c'est écrit fiction sur la couverture. Et c'est ça. Donc, j'ai vu le film plus tard. Et c'est aussi une citation de mon premier livre. Donc, que j'attribuais à Clint Eastwood, d'ailleurs. À tort. À tort, c'est Terence Hill.
C'est vrai qu'on pense que c'est lui.
Puis, mais ça ne sera jamais corrigé. C'est comme ça dans le livre. Donc. Je l'assume.
Bon, bien merci. Alors, nous allons donc passer à Alain Farah. Alain Farah est professeur au département de littérature française de l'Université McGill. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques et textes de création et a publié au Cartanier un recueil de poésie, Quelque chose se détache du port, 2004, et un roman, Matamor, numéro 29. Réédité en France chez Léo Cher. Alors, Alain, que vas-tu nous lire?
Oui, quelques pages alors tirées du roman que tu viens de citer. Je prends un livre au hasard dans ma bibliothèque. Je me retrouve dans le cabinet de Madame Arnoux, 1848, l'année d'une autre révolution, Flaubert a 29 ans. Alors, le dialogue qui commence. « Madame, n'admettez-vous pas que je puisse aimer cette joueuse de tennis, ne serait-ce que chastement? Quand elle est à marier, on l'épouse. Quand elle est mariée à un autre, on s'éloigne. Est-ce à dire que la passion est hors d'atteinte? Non, mais qu'on ne la trouve jamais dans des vies fantasmées, un épisode à la fois. Qu'importe si ces vies me rendent joyeux de toutes les joies? L'expérience est trop coûteuse. La vertu, madame, ne serait donc que lâcheté? Dites plutôt... De la clairvoyance, pardon. L'égoïsme fait une base solide à la sagesse. Bop. J'arrête de lire comme choqué par cette maxime de bourgeoise. Que faire maintenant? Louer un piano? Composer une valse polonaise? Je me remets au travail, même si ma joueuse de tennis existe à peine plus que mon armée des ombres, parce que notre épopée nationale reste à écrire et que, déjà gamin, je me croyais de taille pour le faire. Ça y est, l'affaire est dans le sac. Nous sommes au noyau. J'enfle tellement je crâne. Le Matamor, c'est moi. Oh! Avant de savoir que j'étais myope, je disais « je vois mal au cinéma ». Tout ça pour dire que le film commence ainsi. concours de swing. Tout le monde danse sur un écran lila. Tout le monde danse et traverse l'écran. Mais mon regard myope suit la danseuse blonde. Elle danse si bien qu'elle gagne le concours, même si elle vient d'une ville de province. Elle décide alors de s'installer à Los Angeles. Deux semaines plus tard, elle y atterrit, naïve, et s'installe chez sa tante, partie séjourner au Canada. Je traverse l'écran lila et lui adresse la parole. « Je ne sais plus qui je suis. Que veux-tu dire? Tu es Joseph? Non, je ne connais pas mon nom. Je ne sais plus qui je suis. Ton nom est dans mon sac à main. » Elle sort une clé de son sac, exactement comme au cinéma quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. « Tu es encore là? Oui, je suis revenu. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Personne ne veut de toi dans cette maison. Vraiment? Mes parents sont en haut, ils pensent que tu es parti. Je pourrais les appeler, je pourrais appeler mon père. Mais tu ne le feras pas. Si tu essaies de me faire chanter, je t'assure que ça ne marchera pas. Tu joues un jeu dangereux, tu sais? Tu sais ce que je veux, ce n'est pas si difficile. Va-t'en, va-t'en avant que j'appelle mon père. Il a confiance en toi, tu es son meilleur ami. Cela signifierait la fin de tout. Qu'est-ce que ton père pensera de toi quand il apprendra ce qui s'est passé? Arrête, arrête, je t'en prie. Si je dévoile ce qui s'est passé, ils t'arrêteront et tu iras en prison. Alors sors d'ici, m'entends-tu? Va-t'en avant que... Avant que quoi? Avant que je te tue. Mais alors, c'est toi qu'ils jetteront en prison. Puis elle pleure, pleure, pleure. Puis elle dit avec émotion, je te déteste, je nous déteste. Fin.
Alors, merci pour cette lecture. Alors, pourquoi cet extrait et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta relation au cinéma à partir de là?
Ben, je pourrais vous dire beaucoup de choses, dont que j'ai été le commis club vidéo d'Élise Turcotte. Et ça, c'est très, très bizarre.
J'avais oublié ça. Ben, je l'oublie jamais.
Je sais, tu l'oublies jamais, mais je sais, mais on l'oublie périodiquement. On ne peut pas y penser 24 heures sur 24.
Tous les jours.
Mais oui, moi aussi, j'y pense à tous les jours, surtout aujourd'hui. Mais donc, j'ai été le commis de club vidéo d'Élise Turcotte. Mais au-delà de ça, j'ai besoin du cinéma parce que je ne crois pas à la réalité. Et ironiquement, c'est dans un cinéma que j'ai compris ça. Ce qui fait que cette idée-là d'être dans une salle obscure, à regarder un écran et d'y être planqué est quelque chose qui m'obsède dans chaque chose, chacun des textes que je fais. Et dans le roman dont je vous ai lu un extrait, il y a donc ce leitmotiv-là qui n'a pas de pire endroit pour se planquer que dans un cinéma, en référence notamment au fait que c'est l'endroit quand même que Lee Harvey Oswald a choisi pour se planquer après avoir tué le président des États-Unis. Et biographiquement, moi, c'est ça, c'est le cinéma Commodore, tu t'en souviens peut-être, donc sur le boulevard Gouin, pour ceux qui connaissent Cartierville. Donc le cinéma Commodore, qui est devenu ensuite un cinéma pornographique et qui est devenu un club vidéo, mais qui n'était pas le club vidéo où je travaillais, même si c'était le même propriétaire. C'était le même propriétaire, oui. Donc, dans ce cinéma-là, en voyant Teenage Mutant Ninja Turtles 2 avec Vanilla Ice, j'ai compris que je ne croyais pas à la réalité. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Et puis, j'ai appris récemment que Philip K. Dick aussi avait fait une expérience comme ça dans un cinéma. Ça arrive. C'est des actualités, en fait, qu'il voit. Des actualités de la guerre du Vietnam. Et puis, il comprend là que la réalité n'existe pas. Et puis, il dit à sa mère qu'il va sortir parce qu'il se sent mal, parce qu'il est trop choqué par les images du Vietnam qu'il est en train de voir. Et plus tard, on apprend que ce n'est pas les images du Vietnam qui l'ont choqué, mais c'est le fait même de comprendre, enfin, que la réalité n'existe pas.
Bon, d'accord. Alors, bon, il y a quand même, dans l'extrait que tu as lu, il me semble qu'il y a... quelque chose que je retrouve beaucoup. Alors, c'est peut-être parce que la réalité n'existe pas, donc on peut l'accélérer, on peut la ralentir, on peut jouer avec sa vitesse. Et dans l'extrait L'Actualus, ça va vite et on arrive à la fin. Et il y a une série comme ça de fins dans Matamor. Alors, j'aimerais peut-être savoir un petit peu d'un point de vue plus formel, là, pour le coup. En dehors, bon, parce que là, il y a des références explicites au cinéma. Le cinéma est important pour toi. Bon, il y a aussi quand même Matchpoint, là, qui intervient. Mais il y a cette écriture qui travaille beaucoup à la fois sur des ruptures... entre des éléments très disparates, disons, et qui joue beaucoup sur la vitesse, sur la temporalité pour faire se conjoindre des réalités qui autrement se rejoindraient pas. Alors ça, il me semble que c'est avec le cinéma que tu fais ça, mais est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est...
Non, tu te trompes pas. Tout à l'heure, Élise parlait de chaos organisé. Pour moi, un problème, en fait, que j'apprécie, hein, parce qu'on choisit ses problèmes en littérature, c'est le fait justement que le cinéma est un art qui est un art, évidemment, donc de... comment je pourrais dire, du découpage, et qui est surtout un art de l'image arrêtée, et tout le jeu par la vitesse précisément consiste à donner une illusion de liant. Mais moi, ce qui fait en sorte que c'est dans un cinéma que j'ai compris que la réalité n'existait pas, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait 24 images à chaque seconde qui étaient bombardées devant moi. Et pour moi, le liant à partir de là, entre ces images-là, est devenu aussi illusoire que le liant dans la littérature. Alors, c'est sûr que, puisque tu poses la question formellement, je m'intéresse à une écriture du montage, une écriture de la citation, de la greffe, appelons ça comme on veut. Et à partir de là, pour moi, c'est sûr que le cinéma, dans sa manière même de procéder, c'est-à-dire, si on pense à ça d'un point de vue analogique, là, en découpant des morceaux d'images, puis en les collant, puis en rêvant qu'on est Gilles Groux, puis qu'il est 21h le soir sur le bord de la métropolitaine, on peut faire apparaître du liant, de la continuité, de la fluidité, des effets de vitesse, alors qu'on reste devant de la rupture. Mm-hmm. Il me semble constante. Puis bon, c'est marqué par le retour de Chariot dans Matamor numéro 29, donc qui est obsessif complètement. Il y en a des centaines aux grandes dames du typographe de la maison d'édition où je travaille. Mais c'est pour moi, c'est ça, c'est d'y aller par David parlait de plan, par frame, c'est de le voir comme ça. Bien, à toutes les échelles. Du découpage puis de la séparation, en fait.
Mm-hmm. OK. Alors, est-ce que tu rêves d'écrire un scénario, de faire un film?
Moi, j'aimerais faire du cinéma, mais il n'y aurait pas de parole. J'aimerais ça travailler le cinéma avec l'image, comme je travaille les mots dans la littérature, mais je pense pas, ça va pas être assez une vie, je pense.
OK. Alors bon, je vais peut-être terminer avec une dernière question qui s'adresse à vous tous, justement en rebondissant sur ce qu'Alain vient de dire. Bon, il me semble que vous avez tous justement une écriture assez fragmentaire, on pourrait dire. ça va me permettre peut-être de faire le liant. Et alors donc, est-ce que pour vous, le fragmentaire... Bon, alors chez Alain Farah, on a vu que... Bon, le fragmentaire, c'est peut-être d'ailleurs pas comme ça que tu le dirais, donc peut-être ça pourrait être reformulé. Mais le montage, une écriture à la fois tout en rupture, mais capable peut-être aussi de créer une autre continuité, est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, d'abord travaille votre écriture? Est-ce qu'on peut dire que c'est lié au cinéma ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça et que ce serait peut-être un petit peu trop tourné vers un seul art que de dire, mon Dieu, la fragmentation, le montage, ça vient du cinéma? Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce qu'on ne peut pas le dire, selon vous?
Est-ce qu'on a l'air de bien s'entendre? Est-ce qu'on dit oui ou non? Ben, dans un sens, oui, parce que si on regarde quand même l'histoire du roman, par exemple, ça a beaucoup changé avec l'avènement du cinéma. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'écrit plus des romans. Ben, quoi qu'il y en a qui n'écrivent comme avant, là, mais bon, c'est clair aussi. On n'écrit plus des romans comme avant le cinéma. Il y a des affaires qui sont montrées tellement bien au cinéma qu'on n'a pas besoin de les décrire. Mais je ne sais pas si nous, on travaille le fragment à cause du cinéma, probablement. Ce que j'ai remarqué de nous trois, par exemple, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est toute cette envie de la citation, du collage, mais aussi jamais de faire de hiérarchie dans la culture. Là, tu sais, c'est tous les films cités par nous, c'est jamais nécessairement des chefs-d'œuvre. C'est ça. Moi, par exemple, cette année, ce qui m'a le plus frappé, ou une affaire qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai écouté Deadwood, ça m'a jeté à terre, la télésérie Deadwood. Je pense que c'est une des choses qui m'a le plus marqué en culture. Puis probablement que c'est parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Donc, ça, c'est le fun. Je trouve qu'on voit ça. C'est l'arrêt sur l'image dont tu parles. Une scène peut nous frapper, même si c'est dans un mauvais film. Oui, ouais, ouais. C'est ça. La culture aussi, le mélange de culture populaire. Parce que le cinéma vient de là aussi. On ne peut pas le nier. Donc, est-ce que vous allez au théâtre comme au cinéma? Ben, c'est moi qui vais poser des questions. Allez-vous au théâtre comme au cinéma? Ça, je me demande.
Pareil, on parle de fréquence ou de présence?
Avez-vous aussi envie de... Aimez-vous autant le théâtre que le cinéma?
Je suis souvent déçu au théâtre.
Oui, moi aussi, c'est ça.
Puis je trouve que la déception théâtrale est beaucoup plus douloureuse et profonde que la déception cinématographique qui passe, comme on est tellement habitué, puis ça passe. Mais quand on trouve ça long au théâtre, c'est très, 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 très long.
Probablement, oui. Je demande ça à cause de la réalité n'existe pas. Au théâtre, c'est plutôt l'inverse qu'on nous dit. La réalité existe.
Mais j'écrirais plus pour le théâtre que pour le cinéma. Ah. Étrangement.
Oui, c'est étrange.
Mais et je comprends. Encore, encore plus étrangement, en avril, à Québec, on a fait l'exercice de créer des films sans images, ah, avec seulement du son et des mots. Donc, c'est le contraire du rêve d'Alain,
ouais, mais
qui est seulement des images sans mots. Et c'est assez étrange comme sensation. Donc, on a vraiment projeté dans le vide. C'était une salle noire, mais on voyait quand même les gens devant nous. Puis,
Oui, mais c'est pas un film.
Mais alors, on imagine quand on...
Mais qu'est-ce qu'un film?
Ah, ben ça. Non, mais c'est du son.
Oui, oui. Mais un son habillé en surround 5.1 pour les amateurs de technique. Et non, c'était assez spécial, puis ça fait aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on crée avec nos mots aussi comme image mentale. Et mais pour revenir à l'influence du cinéma, je sais pas si on peut vraiment, parce qu'on n'est pas les premiers à écrire depuis l'invention du cinéma, donc on est influencé par des gens qui ont été influencés à l'époque des premiers films, donc
ouais, ouais, c'est ça.
Là, il y a un lien qui fait que... Et le cinéma est influencé par la littérature, donc finalement, la roue tourne, puis tout le monde s'influence, puis moi, je vois pas de hiérarchie, là. C'est pour ça que mon rêve, c'est pas d'écrire pour le cinéma.
Ben, c'est pas mon rêve, mais c'est un rêve. Mais finalement, je suis pas sûre que ça serait si fun que ça. Ça a l'air assez compliqué.
Ah, les budgets...
Ouais, tout ça. Mais quand on aime le cinéma, il me semble qu'on a le goût. Mais on pourrait écrire un film ensemble. Ça se passe à Cartierville.
Ouais. Dans un club
vidéo.
Pornographique.
Puis là, le gars, il travaille là. Puis son rêve, c'est de faire un film sans parole.
Mais c'est très... c'est parce que tu me pars sur un autre projet, alors que c'est un peu compliqué ces temps-ci, parce que justement, avec mes amis, on travaille à la radio, puis on suit un peu les mésaventures à tous les jours. Il arrive des nouvelles affaires avec le printemps qu'on connaît, etc. Et puis, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'on se dit que c'est tellement charmant ce qu'on vit qu'on pourrait faire un film avec ça, mais on s'est dit qu'on voulait faire un film pour commencer sur une équipe de radio qui font un film sur les événements. Donc là, on a compris qu'il fallait qu'il y ait deux personnes qui jouent mon rôle, et elle insistait sur Nils Schneider. Schneider. Mais moi, je suis en tout cas. Je ne sais pas, aucune idée. Ben, c'est mon côté juif. Mais le truc, pour revenir à ta question, Marie-Pascale, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer quand même le désir hyper puissant de la continuité quand on est dans l'écriture du fragment. Et souvent, on est dans l'écriture du fragment, pas par défaut, mais parce qu'on s'est trompé ou parce que, en fait, je pense. à un projet de livre là, que je suis en train de finir. La dernière fois dont j'en ai parlé, c'était ici d'ailleurs, et Mathieu Arsenault, qui est encore là aujourd'hui, j'imagine, qui nous enregistre toujours comme ça, puis qui donne ça à la GRC après, avait fait attention de couper là, le moment où je parlais de ce livre-là, mais là, ça va aller parce qu'il est sur le point de finir. Et puis, pendant très longtemps, j'ai essayé de faire un livre pas fragmenté. Mais c'était tellement mauvais, mais même pas du mauvais... Bon, là, c'est comme, tu sais, du vrai mauvais que t'as honte, là.
Non, t'essayais de faire un vrai roman?
Je sais pas que j'essayais de faire, mais je voulais qu'il y ait de la continuité. Oui. Mais, puis là, j'ai réalisé que c'était vraiment, qu'il y avait rien comme ça dans ma vie. Donc, pourquoi j'essayais de faire un livre comme ça? Donc, mais j'ai comme vu en face de moi le désir de la continuité apparaître là, plus que jamais en me disant « la réalité existe ». Exactement comme Robin Williams avec Matt Damon dans « Good Will Hunting ». It's not your fault hein, quand il lui dit ça. Mais moi, elle me tenait comme ça. Là,
la réalité?
Non, la continuité. elle me tenait puis elle disait « j'existe, la réalité existe, on existe ». Mais quand on prend la main comme ça, c'est très, très difficile hein, de résister. Donc, ça a été pendant des années, ça a été comme ça jusqu'à peut-être janvier dernier où j'ai dit « Ah, tant pis, c'est bon ».
Tu as laissé les fragments vivre.
Oui, oui. Ouais.
Parce que ce qu'on aime du fragmentaire, quand on aime le fragmentaire, c'est que les... Oui, disons que tu jettes ton verre par table, il y a des fragments de verre. Peut-être que, dans le fond, ils veulent se rassembler. Mm. Mais moi, le fun du fragment, c'est de ne pas les rassembler, il me semble. Les laisser... ou de les rassembler autrement. Fait que j'ai hâte de lire ton livre.
je crois que là, on a... Ça va être à vous de poser quelques questions. Je pense que là, on a un enregistrement... dans lequel on sait qu'Élise Turcotte et Alain Farah vont peut-être faire un film ensemble. Et comme nous sommes enregistrés, je vous demanderai de venir poser des questions au micro pour qu'on puisse bien entendre après aujourd'hui, après ce soir, les questions que vous allez poser. Alors, à vous la parole.
Question dans la ville, parce que les rapports entre littérature, cinéma, ça me fascine. En même temps, je m'y connais pas du tout, fait que j'aurais pas trop quoi dire. Mais en vous entendant, le mot ça me frappe toujours les mots, moi. C'est-à-dire que, par exemple, on va donner dans un discours, il y a un terme qui tout à coup apparaît. Le collimateur, par exemple. À un moment donné, quand on faisait la demande de subvention, tout était dans le collimateur. Il fallait employer ce mot-là. Peu importe la demande de subvention, il fallait qu'on emploie le mot collimateur. Oui, et le mot que j'ai entendu ce soir qui m'a surpris, c'est le liant.
Oui.
C'est en cuisine qu'on fait ça. Hein. Quand la sauce n'est pas prise, faire lier la sauce. Là. Quand moi, je fais la blanquette de veau, par exemple, c'est très important. Quand j'arrive à la fin de ma recette, il faut que j'ajoute le jaune d'œuf avec un peu de vinaigre pour lier la sauce. Sinon, elle va être granuleuse. Et là, je me suis dit, là, vous parlez de fragmentaire, de continuité, parce que c'est ça qui est un peu l'enjeu ici, là, c'est-à-dire de faire du fragmentaire, mais en même temps, que ça soit quand même cohérent, qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une continuité. Et le mot que vous employez, c'est le liant. Alors, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus, au-delà du mot comme tel. Non, parce que il me semble que tout le monde l'employait à un moment ou un autre, entre je l'ai entendu. C'est quoi ce fameux lien? Est-ce que c'est ce qui permet de passer du fragmentaire à quelque chose de continuité? Est-ce que c'est ce qui fait le lien entre une écriture cinématographique par image, par flash, et quelque chose qui est plus continu? Bon, enfin, c'est ça. Le lien ou le contraire, le délié?
Ah oui, vas-y. C'est bon.
J'avais pas besoin, finalement. Personne veut parler. Ben, on n'échappe pas au lien. On n'y échappe pas. Puis on le recherche, puis on le crée nous-mêmes. Même si on est jeté dans des situations totalement absurdes, on se réveille un matin dans un container en Amérique du Sud, ben, on va essayer de lier à qu'est-ce qui précédait avant qu'on s'endorme à Bangkok, sur la banquette arrière d'une berline volée. Et là, je vous dis ça, et vous cherchez le lien. Donc, le lien vous poursuit toujours, et l'insomnie est causée par le lien, parce que vous cherchez hein, les atomes entre les autres et donc à faire des liens avec tout. Et moi, ça me fait penser à, au roman Mayonnaise. Le roman Mayonnaise, donc, il faut faire prendre de notre collègue Éric Plamondon, qui est justement un roman très, très fragmentaire. J'aime pas beaucoup le mot fragmentaire.
Quel mot à la place de... Parce que, bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Mon Dieu.
Moi, je l'aime.
Moi aussi, je l'aime.
Bon, mais David... bon, ben c'est mon problème. Hein, on choisit nos problèmes. Ben c'est le côté péjoratif de insuffisant ou...
Ben non, jamais. Le fragmentaire... Les fragments s'autosuffisent. Ils sont bien bonnement aux autres, là, découpés en morceaux. Non, moi, je trouve que c'est beau, fragmentaire.
Ben, c'est-à-dire que par rapport à la question qu'on plaçait d'un point de vue historique tout à l'heure, c'est sûr que, je sais pas, pour moi, ça réfère aussi beaucoup au travail des Allemands au début du 19e siècle, ou c'est à la fin du 18e, je sais plus, mais je pense au fragment de Jean-Paul, par exemple, ou à ce travail-là sur justement ce lien dont tu parles, Gilles, à mon sens, puis c'est pour ça que peut-être que le titre est bien choisi pour aujourd'hui, sachant aussi que si Marie-Pascale nous a réunis tous les trois, étant dans l'écriture fragmentaire, c'est peut-être pas pour rien, c'est que cette espèce de cohésion-là, elle se passe hors champ, justement. Mm-hmm. Elle se passe à l'extérieur même du texte, et puis elle se passe dans le cinéma mental du lecteur. Mm-hmm. Et moi, c'est ça que je trouve hyper stimulant. Oui. C'est justement de générer, justement, ou de projeter sur ou de la manière dont ce liant-là va s'opérer chez le lecteur, dans sa boîte à images à lui. Donc, pour moi, c'est là que ça se situe, hors champ.
Puis ça rejoint le jeu dont on parlait tout à l'heure, donc le jeu avec le lecteur, puis justement, c'est au lecteur à... lier les paragraphes entre eux, parce que souvent, d'un paragraphe à l'autre, il peut avoir une rupture assez brusque, comme dans mon exemple précédent. Très brutal, hein? On va dire « qu'est-ce qui se passe? » Et c'est ça, donc...
En même temps, tu sais, là, on parle de récits ou de romans, mais il y a la poésie aussi qui est, tu disais tantôt... une espèce de rupture liée des éléments disparates, mais ça, c'est le travail de la poésie. Puis ça devrait aussi un peu être le travail du roman, à mon avis, tu sais, de lier des éléments qui ne sont pas nécessairement liés. Mm. Puis quand tu parles aussi de cinéma mental du lecteur, bien, on a aussi, en écrivant, un cinéma mental. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que, justement, quelqu'un qui essaie de montrer le liant, là, tu sais.
Ouais.
Tu sais, de dire, ben voilà, tu sais, un roman tellement bien cousu que là, toutes les fils ont... Parce que dans le fond, toute cette couture-là, c'est en dessous du texte. C'est la partie, on dit-tu immergée? En tout cas, en dessous de l'eau de l'iceberg, encore des métaphores de l'eau.
Submergée.
Immergée?
Submergée.
Submergée. Ouais.
Immergée.
En tout cas. Mais si le roman est bon, par exemple, c'est parce justement, ces liens-là sont là, il y a une cohérence, mais c'est travaillé hors champ. Je pense que c'est vraiment ça.
Oui, ben, je suis contente. Venez.
J'ai entendu de grands mots ce soir, fragmentaire, et puis lien. Moi, j'aurais une question qui serait plutôt un petit peu hors contexte, et puis qui est surtout une question triviale. Bon, on va dire, cet an dernier, il y a eu, par exemple, un auteur qui a écrit, je ne sais pas comment vous êtes... la liste des cadeaux ou la liste des qui a eu un grand succès, et puis il y a Marc Lévy aussi qui a écrit un livre qui a été adapté, la liste des envies, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, qui a été adapté tout de suite pour le cinéma. La question la suivante: qu'est-ce qui fait qu'une œuvre de fiction est sollicitée par les cinéastes?
Premièrement, c'est les producteurs qui, en général, souvent, je pense, qui sollicitent, là, à moins d'avoir un cinéma vraiment d'auteur. Puis les producteurs, ils veulent un livre qui s'est bien vendu et qui est facile à adapter. Là, en ce moment, d'ailleurs, moi, parce que j'ai parlé à des gens, mais en ce moment, l'affaire qu'ils veulent, c'est des choses pas trop sombres. Fait que c'est sûr que moi, je suis faite. Donc, il y a comme tout un... C'est ça. Fait que c'est sûr que les best-sellers sont adaptés, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en pensant à l'adaptation cinématographique aussi. Donc, c'est presque déjà scénarisé. Donc, il y a des livres vraiment faciles à scénariser. Puis c'est pas nécessairement une qualité. C'est pas nécessairement un défaut non plus, mais... En tout cas, je pense que c'est comme ça que ça se passe.
Ça me rappelle Kundera qui parlait de l'adaptation de L'insoutenable légèreté de l'être, puis qui était vraiment frustré profondément, puis qui s'est dit à partir de ce moment-là, je vais écrire en fonction de, en vue de ne pas être adapté, justement. Donc, je vais écrire contre l'adaptation cinématographique.
Pourtant, c'est une très bonne adaptation, moi, je trouve.
Non. Je ne me prononcerai pas.
OK, on en parlera.
Je m'abstiens. Donc, c'est ça, ils cherchent deux choses, le succès ou un suspense efficace, très bien ficelé. Déjà...
Dans le micro, s'il vous plaît. Oui.
C'est pour la postérité.
Par rapport à ce que vous dites, il y aura certainement des questions là-dedans. Vous pourrez les décortiquer. Mais juste avant de venir ici, à votre, je ne savais pas ce que c'était, juste cinéma, littérature, j'avais écrit quelque chose sur un bout de papier, puis ça disait... comment ça disait encore celui qui sait... un rat, bref, un rat, c'est un rat. Il y a seulement celui... Il y a celui qui n'est pas sûr, celui qui n'est pas sûr. Ou... Mais bref, ce que je veux dire, celui qui décide de dire qu'un rat, c'est un rat, c'est un idéaliste. Et celui qui va... le contraire, par exemple, d'un relativiste qui va dire non, un rat, ce n'est pas vraiment un rat, il faut regarder plus expérimenté. Puis à ce moment-là, on va se rendre compte que tout ça, c'est objectif, subjectif. Bref, pour dire qu'il y a ceux qui disent la réalité existe, puis il y a ceux qui disent que la réalité n'existe pas. Dans la littérature, je pense qu'on essaye de jouer, on joue avec ces deux choses, mais il y a la position de celui qui va jouer sur ça, que la réalité n'existe pas, puis il étire, il fait ce qu'il en veut. Puis il y a celui qui va décider que la réalité existe, et puis je vais essayer avec l'écriture, le cinéma, de la faire ressortir pour que ça prenne sur... l'auditoire. Mais on est beaucoup dans cette réalité qu'elle n'existe pas. Et, par exemple, Madame Turcotte, elle va lire, elle va, dans son fragment là, qu'elle a lu, elle va parler de rédemption, d'âme. Mm-hmm. Mais dernièrement, j'ai lu Octavio Paz qui parlait de rédemption. Puis j'ai pas compris... Pourquoi il parle, dans quel sens il utilisait ce mot-là? Puis j'ai cherché, j'ai vu, je sais ce que veut dire rédemption, etc. Mais j'ai toujours des difficultés avec l'utiliser. Donc ici, on parle de quelque chose, mais on ne sait pas trop au juste ce que c'est. Et souvent, la littérature, la poésie, c'est fatigant. À la dernière, il y avait ici Denis Arcand. Je suis venu, puis j'ai acheté un petit livre qui traînait là. C'était « Qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre ?» Puis qui parle de ça, là, de la poésie, comme quoi, les mots, la littérature, etc. Comment qu'en fait, il y a un mot, on ne peut jamais le saisir juste au fond, etc. Et le monsieur, ici, qui dit qu'en en fin de compte, il est bien juif, c'est pour ça qu'il... Alors là, il se trouve une vraie identité, une réalité, c'est qu'il est juif. Mais quand il va au cinéma, les fragments qui sont posés, ça n'existe pas, la réalité n'existe pas. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais je pense que je voulais faire ce commentaire. Merci.
Je vais répondre une petite chose. D'abord, quand Alain dit « la réalité n'existe pas », moi, je pourrais dire exactement le contraire, puis je suis sûre qu'on dit la même chose. Moi, je pense que la réalité existe. Mais comment je le pense, je suis persuadée que c'est la même chose que toi. En fait, la réalité existe, puis je pense que pour moi, écrire, ça a beaucoup rapport avec la réalité. Mais c'est comme essayer de faire dire à la réalité ce qu'elle ne dit pas par elle-même. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais la réalité d'elle-même dit pas tout ce qu'elle a à dire sur elle-même. Et un artiste, je pense, ou en tout cas l'écriture fait ça, c'est d'aller faire dire des choses à cette réalité-là qu'elle ne dit pas tout de suite. Elles sont là, ces choses-là, mais je pense à Annie Ernaux, par exemple, cette écrivaine extraordinaire qui écrit beaucoup sur la réalité. Mais elle fait dire des choses à la réalité qu'elle vit, que ces choses-là ne sont pas dites instantanément. Voilà. Mais ça me fait penser à ce que tu disais sur les mots qui deviennent... Il y a des mots qui sont dans l'air du temps, là. Il y a des glissements de sens qui se produisent. Puis à un moment donné, l'écrivain doit s'arrêter, et c'est ça qu'il fait. C'est plus un arrêt sur l'image, mais c'est un arrêt sur le mot. Comme là, les mots cette semaine, depuis 3 semaines, c'est... toute cette folie-là, justement, sur c'est quoi la révolte... C'est quoi, pas la révolte, on sait aussi. C'est quoi la violence, c'est quoi le boycott, c'est quoi ci, c'est quoi ça, mais surtout tout le discours de Lynn Beauchamp, qui répète sans arrêt les mêmes affaires. On a bougé, ils ont bougé, ils ont bougé. Puis ça finit hier, à la période de questions, avec une métaphore. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, ça m'a tellement déprimée. Période de questions où tout le monde fait des métaphores, une métaphore filée sur la danse. Là, ça part du cha-cha. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'est rendu, là, j'hallucinais. Mais ça fait penser qu'il y a un glissement de sens, par exemple, qui s'est produit entre la par exemple, on parlait de culture avant, maintenant on parle de produits culturels. Il y a bien des affaires qui changent. Dans l'enseignement, maintenant, c'est quasiment la langue de client et vendeur, là, je veux dire. Et ça, c'est dangereux. Donc, c'est la réalité, ça. Et le travail d'un écrivain, je pense, c'est justement de faire... Paul Chamberlain l'a tellement bien fait, d'ailleurs... Il prenait les journaux, puis il découpait des phrases, puis il collait ensemble pour montrer justement comment des réalités qu'on pense opposées sont liées. Maintenant, on sait bien que l'économie, c'est lié aux politiques, mais... Bon. Mais dans la fiction aussi, là je suis en train de parler de vraie réalité. Mais...
Moi, je trouve votre typologie intéressante, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a toute une virtuosité à tenter de capter là, l'expérience de la réalité ou du réel, même si c'est pas la même chose. Mais ce qu'il faut entendre quand je dis que la réalité n'existe pas, en fait, c'est que je prétends qu'on peut l'inventer. Et par là, j'entends la changer. Et par là, mon propos est politique. Donc, c'est seulement dans ce sens-là que ça va. Parce que, partant du principe que la réalité... Donc, oui, bonne chance pour essayer de retranscrire ce qu'est l'expérience de la réalité. Je pense que même des hommes comme Joyce ou Céline, ils sont pas parvenus. Parce que c'est incontenable, comme dit Christian Prigent, un grand poète. Donc... pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et puis, c'est vrai que ce travail-là va dans le sens de ce que dit Élise, justement, d'essayer de montrer la part d'arbitraire aussi dans ce qui, par ailleurs, est toujours reçu comme lié, comme cohérent, comme fonctionnel, comme etc., 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 comme naturel surtout. Et ça, c'est Bourdieu qui disait ce qui fait problème avec l'ordre... L'ordre naturel, c'est précisément qu'il ne fasse pas problème ou quelque chose comme ça. C'est très, très mal cité. Mais c'est l'idée que je vois pas comment on peut percevoir les choses justement avec fluidité quand on fait certaines expériences de réel, comme disait l'autre.
C'est exact. Non, mais c'est vrai, la réalité n'est pas naturelle, en fait. Non, mais les gens perçoivent ça comme naturel, mais ça ne l'est pas.
Je vais dévier un peu le sujet, peut-être. Est-ce qu'on a effleuré un petit peu la question de l'essai dans l'œuvre de David? Est-ce qu'on a absolument besoin du genre narratif pour créer un cinéma mental où on pourrait aller dans un autre genre littéraire qui pourrait être exploité de la même façon?
Mm-hmm. Comme la chanson?
Par exemple, la poésie. Ah oui?
Ah oui.
Oui, oui, tout à fait.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de chanteurs, de compositeurs ou d'auteurs, compositeurs-interprètes, qui parlent de cinéma, justement, de créer comme des petits films avec leurs chansons. Je pense à Pearl Jam ou plusieurs paroliers qui parlent justement de créer une atmosphère de road trip, par exemple, ou de fuite, ou de toutes sortes de scènes, finalement. Là. Puis, d'ailleurs, ce que je trouve drôle, c'est que... Bon, là, on est ici pour parler des références cinématographiques dans nos œuvres, mais justement, le cinéma parle souvent de cinéma, la chanson parle de chanson, et les livres parlent de livres. Donc, quand on essaie de brasser tout ça, ben ça permet de décloisonner un peu, puis de questionner la réalité du cinéma, du livre.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, plutôt que le cinéma parle de tout, le livre parle de tout, que ce sont qu'à l'intérieur d'un livre, on peut tout mettre, à l'intérieur d'un film aussi, et peut-être d'une chanson, là, je ne sais pas.
C'est court, une chanson. Oui. Mais en fait, le cinéma fait partie de la réalité, comme les livres, comme... Moi, quand je parle de cinéma ou de livres, quand je parle de films qui existent, je me pose pas la question. Ça existe, donc on peut en parler, comme je peux parler d'une roche ou de... C'est le lecteur avec sa quête du liant qui fait « Ah, mais j'ai pas vu ce film-là, donc je comprends pas, mais tu sais que c'est un film, donc si je te parle d'une pierre, tu l'as jamais tenue dans ta main, mais tu te poses pas la question de « Ah, pourquoi... » Alors que le film, il faut l'avoir vu pour en parler. C'est un peu étrange. Hein? Alors qu'on peut très bien parler de livres qu'on n'a pas lus.
Bien, alors, est-ce que... oui, Élise, tu voulais réagir?
Non.
Non?
Non, mais la réponse, c'est ça, c'est oui, avec toutes les formes d'art. Même, j'ai parlé à un créateur de parfums la semaine dernière, puis non, mais c'est vrai... Il travaille ses parfums comme un réalisateur travaille une petite histoire. C'est fascinant de l'écouter. Fait que je me dis, le cinéma mental est dans toutes les formes, je pense. Et ça dépend si on est attiré. Il y a du monde qui n'aime pas le cinéma, hein, ça existe. Mm. Mais ça, je suis bien à l'aise. Je ne comprends pas ça, là, mais il y en a.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
Un peu en parallèle avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Oh, je
crois que il ne mord pas, hein? Il mord pas.
Et merci, et le cinéma intérieur et les rêveries. Élise, on avait parlé un peu tout à l'heure en lisant votre passage avec le film Élisabeth, cette possibilité-là dans l'intime de pouvoir revisionner des scènes, pouvoir faire des arrêts sur image. Comment on fait? Est-ce que ça vous alimente? Est-ce que des arrêts sur image sont en vous quand vient le temps de passer à l'écrit?
Ben, c'est rare que je fais comme Élisabeth, elle s'appelle Élisabeth, le personnage aussi. C'est rare que je fais comme elle de repasser des scènes, mais si une scène me frappe, elle est imprégnée en dedans de moi. Ça peut arriver que je repasse une scène, mais je pars avec la scène. Puis, de la même façon que des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, je vais au cinéma, puis je sors du cinéma, puis je suis le personnage du film, puis ça, c'est bien, bien long avant que ça. Je suis comme imprégnée, puis je suis plus par là. Ben moi, le cinéma, c'est très particulier aussi. Je suis pas capable d'aller au cinéma le soir. Faut pas qu'il y ait trop de monde. Je peux pas aller au cinéma avec quelqu'un que je connais pas. Pas beaucoup avec des amis. C'est très solitaire. Pour moi, c'est vraiment bizarre. Non, mais lire, c'est pareil. Ça se fait pas à plusieurs. Ça dépend quoi, là, mais...
Mais merci de votre question parce que oui. c'est intéressant aussi d'en revenir à des éléments techniques. Oui. Dans l'extrait que je vous ai lu, il y a à peu près pas une phrase qui est de moi, que ce soit Flaubert qui parle ou que ce soit David Lynch. Moi, c'est le contraire, c'est-à-dire j'ai besoin de les voir et de les revoir et les retranscrire et de jouer avec elles, etc. Ce qui fait que je ne sais plus trop pourquoi je racontais ça cette semaine à quelqu'un. Pour ce roman-là, sur la table de travail, il y avait autant de livres que de DVD. Et puis, il y a comme au cinéma, il y a des choses qu'on n'utilisera pas. Puis, toute une part du travail qui venait du Dogville de Lars von Trier. Et puis, ce qui est resté, c'est les choses dont j'avais besoin pour raconter cette histoire-là. Mais moi, c'est le contraire. J'ai besoin de les voir, les revoir. Puis justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut s'approprier cette matière-là en, en extrayant une minute et demie, comme aujourd'hui. Je dois dire que ce matin, avant d'aller travailler puis d'aller soutenir mes étudiants à l'UQAM pour une belle conférence de presse qu'on a fait avec Guy Rocher, Gabriel Nadeau-Dubois, je me suis dit, en regardant la presse et en voyant ce sondage-là, non probabiliste, totalement venu des... du Grand Château de Sagard pour obstruer la marche donc de notre printemps. Je suis allé chercher dans ma je sais pas comment discothèque de DVD ou je sais pas comment dire cinémathèque ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je parlais de Grou tout à l'heure. J'étais allé chercher 24 heures ou plus de Grou et puis j'ai regardé cette minute et demie où Paul Desmarais explique en fait qu'il est obligé de faire un lock-out parce que certains journalistes de la presse ont un point de vue idéologique sur des événements qui se passent au Québec et que ce n'est pas admissible, etc. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu besoin, grâce à Handbrake, d'extraire cette minute et demie et puis de la regarder encore pour justement, pour être capable de faire le reste de ma journée. Mais là aussi, il y a du fragmentaire, il y a une expérience de la fragmentation de la matière cinématographique qui est juste aussi possible parce qu'on n'est plus seulement dans un rapport, disons, de salle obscure. Mm-hmm. Ça a bougé aussi.
D'ailleurs, on pourrait dire même les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime sur Facebook, par exemple, c'est souvent quelqu'un va m'envoyer un extrait de film. Mais ça, oui, on regarde ça souvent. Des fois, ou un tableau que quelqu'un a vu, ou ces images-là, ben ça fait partie... Moi, je trouve que ça fait partie de notre travail. Malgré tous les défauts de ça, il y a quand même quelque chose qui alimente notre travail pour ça. Oui. Ben, tu sais, moi aussi, je regarde pas des scènes comme tu fais, mais c'est sûr qu'il y a des films que j'ai vus 15 fois. Là. Ça repasse à la télé, je regarde 10 000 fois. C'est comme un...
On veut des titres.
On dirait que c'est jamais fini.
Bon, ben écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Alors, merci à tous les trois. Et on va peut-être aller boire un verre.